Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Caroline Michel-Aguirre, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La Syndicaliste, c'est un livre qui revient sur l'histoire assez étrange, assez incroyable, de Maureen Kearney, qui est une haute responsable syndicale d'Areva, qu'on a retrouvée chez elle, ligotée, mutilée en décembre 2012, et qu'on a ensuite accusée d'avoir simulé son agression. Alors d'abord, rappelez-nous en quelques mots, qui était Maureen Kearney? C'était une toute proche d'Anne Lauvergeon, de Bernard Cazeneuve aussi à une certaine époque, d'Arnaud Montebourg, qui était-elle?
Maureen Kearney était la secrétaire du comité de groupe européen d'Areva. Ça veut dire qu'elle était la porte-voix des 45 000 salariés qu'Areva avait à l'époque. Et depuis plusieurs années, Maureen Kearney était donc l'alter ego syndical du président d'Areva, qui était une présidente Anne Lauvergeon, puis Lou Courcel qui l'a remplacée en juin 2011.
Et elle s'entendait très bien avec Anne Lauvergeon. Hein. Parce qu'il faut préciser que cette histoire s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de guerre entre Areva et EDF.
Oui, c'est une guerre économique très violente entre les deux fers de lance du nucléaire français. Et derrière cette guerre économique, en vérité, il y a une guerre politique parce que Anne Lauvergeon, elle a un réseau de gauche et EDF, à l'époque où Nicolas Sarkozy est président de la République, il place à la tête d'EDF quelqu'un qui lui est très proche, c'est Henri Proglion. Donc, il y a deux étages à cette guerre.
Ouais. Une guerre qui se déroule sur un dossier particulier, qui est celui d'un accord qu'EDF voudrait passer avec les Chinois et qui impliquerait un transfert de technologie. Ça, c'est le projet d'EDF. Areva n'en veut pas et Maureen Kearney n'en veut pas.
Oui, il y a eu un basculement de stratégie et les salariés sont très inquiets. Anne Lauvergeon, à l'époque où elle présidait Areva, refusait ce genre d'accord qui était que nous, on n'a pas d'argent, les Chinois ont de l'argent et un marché, on va leur donner un peu de notre technologie et comme ça, on aura le marché et l'argent. Anne Lauvergeon était contre ce calcul. Elle le trouvait trop dangereux. Lou Courcel, qui la remplace, lui, il est pour. Comme le gouvernement, Claude Guéant, Henri Proglio à la suite et Nicolas Sarkozy. Et Maureen Kearney, elle s'en inquiète. J'ai rencontré plein de cadres, des très hauts cadres qui utilisaient Maureen Kearney comme chambre d'écho de cette inquiétude-là et les plus hauts ingénieurs d'Areva étaient persuadés que les Chinois étaient en train de piller leur technologie, ce qu'ils considéraient être un actif très important de la souveraineté aussi française, parce que le nucléaire, c'est aussi une histoire de souveraineté.
Et ça va être le combat de sa vie, hein, Maureen Kearney, c'est-à-dire qu'elle va se battre contre cet hypothétique accord avec les Chinois, et elle devient la bête noire d'Henri Proglio, puis de Lou Courcel, qui va remplacer Anne Lauvergeon à la tête d'Areva.
Ça se cristallise, en effet, entre elle, qui parle toujours au nom de tous les salariés à l'intérieur d'Areva, l'inquiétude grandit et la direction qui se crispe et qui ne veut pas de transparence, qui dit nous n'avons pas à rendre compte, nous savons ce que nous faisons, faites-nous confiance.
Alors on en arrive au fait, un matin on retrouve Maureen Kearney chez elle. Elle a un manche de couteau enfoncé dans le vagin.
Ouais.
Elle a une espèce de A scarifié sur son ventre. Elle est traumatisée. Et là, problème, la police ne trouve finalement aucun élément probant qui accrédite la thèse de l'agression.
Oui, tout de suite, quand sa femme de ménage la découvre et quand les gendarmes arrivent, elle dit « cette agression est liée à mon travail ». Parce qu'elle a reçu des menaces téléphoniques quelques semaines auparavant et parce que son agresseur, dit-elle, lui a dit en partant « c'est le deuxième avertissement, il n'y en aura pas de troisième ». Sauf que les gendarmes, eux, ne trouvent pas de preuves objectives de
pas
la
d'ADN.
Présence. Ils disent qu'il n'y a pas d'ADN.
Il y a un scotch avec lequel on lui avait lié les poignets, dont on retrouve un équivalent finalement dans le matériel de son mari. Du coup, il y a une suspicion aussi qui s'installe. Elle aurait pu utiliser son propre scotch pour se scotcher les poignets.
Oui, les gendarmes font une liste d'éléments qui leur paraissent objectifs, faisant qu'ils ne croient pas à la version donnée par Maureen Kearney. Dans la remise, ils trouvent un scotch qui ressemble à celui qui a servi à ligoter Maureen Kearney. Ils en concluent non pas que l'agresseur a pu amener le même, mais que c'est elle-même qui sûrement a mis en scène. Et puis, au niveau des expertises médicales, il y a un expert qui dit le couteau dans le vagin, il aurait dû être expulsé naturellement au bout de 5 heures, sauf état de sidération.
Et ensuite, vous racontez, alors je passe les détails, hein, tout est dans votre livre, il y en a énormément, mais donc elle passe dans une espèce de broyeuse psychologique qui aboutit au premier procès qui la condamne.
Il s'est passé 4 ans. Quand même, dont j'ai découvert, moi, en enquêtant, qu'il n'avait rien apporté de nouveau, pas d'éléments objectifs, pas de reconstitution qui pourrait prouver qu'elle aurait pu, dans les conditions décrites, c'est-à-dire un bonnet sur la tête, ligoté, les pieds attachés, un couteau dans le vagin, ensuite s'attacher les mains dans le dos avec une épaule dont on apprendra
plus tard qu'elle
était démise.
Mais ça, il faut le préciser, parce qu'il y a quand même deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'ADN. Mais en fait, les analyses ADN ont disparu et n'ont pas été versées au dossier.
Absolument.
Et ensuite, on se rend compte qu'effectivement, elle avait un problème à l'épaule qui faisait qu'elle aurait été incapable de s'attacher elle-même, de se ligoter elle-même avec ce scotch, les mains dans le dos. Et ça, ce sont des éléments qui vont devenir déterminants.
Oui, parce que cette histoire d'ADN, il n'y a jamais eu de retour des analyses d'ADN, soit qu'ils aient disparu, soit qu'ils aient été égarés. L'autre chose que j'ai découverte en enquêtant, c'était en effet tous ces manquements dans l'enquête, et c'est aussi les pistes qui avaient été délaissées au motif qu'on était persuadé qu'elle avait inventé son agression.
Et le résultat, c'est qu'on ne saura pas ce qui s'est passé, mais elle sera relaxée en appel. Mais vous évoquez quand même un autre fait divers, un précédent qui est quand même très troublant. Vous avez découvert qu'il y avait une autre agression du même type qui avait eu lieu sur la femme d'un cadre de Veolia, cette fois-ci, qui s'était lui opposé à l'intermédiaire Alexandre Djoury, qui était un proche de Proglio, qui réclamait 20% pour un marché qui devait être passé avec les pays du Golfe. Et vous avez retrouvé cette femme qui a été agressée, ça s'est passé exactement de la même manière.
Oui, c'est très troublant. Dans les deux cas des deux agressions, le contexte est similaire. Et il y a une chose que j'ai découverte, une piste qui n'a pas été suivie par les gendarmes, c'est que la DRH d'Areva a confié à une représentante syndicale d'Areva, nous pensons que c'est un intermédiaire qui a fait du zèle, parlant de l'agression de Maureen Kearney. Cette directrice des ressources humaines n'a pas été interrogée, et quand on réfléchit en effet aux intermédiaires en arrière-plan de ces grands contrats, les mêmes noms reviennent, même si ça n'est évidemment ni une preuve ni une démonstration, dans l'histoire Areva et dans l'histoire Veolia. Ce qui est fou, c'est que les gendarmes de l'histoire de Maureen Kearney ne sont pas passés loin. Ils ont entendu parler de ce précédent, mais le dossier avait disparu. Moi, j'ai retrouvé cette victime et j'ai découvert qu'il y avait des détails, un mode opératoire extrêmement similaire entre les deux cas, ce qui nous ouvre tout un champ d'interrogation.
Eh ben, on peut espérer qu'un jour on sache. Merci Caroline Michel Aguirre. Alors je précise quand même pour ceux qui voudraient justement le lire, votre livre, qu'il s'intitule « La syndicaliste » mais qu'il est surtout édité chez Stock.